Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Au menu du débat de ce soir, les primaires qui battent leur plein à 6 mois de la présidentielle française. Elles ont débuté chez les Verts, se préparent activement à droite, se dessinent à gauche. Une exception, la gauche de la gauche, où Jean-Luc Mélenchon s'est lancé sans passer par la case primaire. Des primaires qui donnent lieu à des surprises avec l'élimination il y a quelques jours de l'ancienne ministre, ancienne patronne des écologistes, Cécile Duflot, arrivée 3e de sa primaire, derrière Yannick Jadot et Michel Rivasi.
Elle était tellement sûre d'être au premier tour, elle s'était préparée à cette présidentielle, et que ce soit les militants et les sympathisants qui ont choisi d'autres candidats, je peux comprendre cette déception.
Alors faut-il s'attendre à une surprise de ce type à droite? A priori, les sondages sont formels. Alain Juppé devrait sortir en tête du premier tour le 20 novembre, largement devant Nicolas Sarkozy. Et cette avance, elle fait l'objet d'un débat dans le camp de l'ancien président Nicolas Sarkozy. On accuse Alain Juppé de faire du pied aux électeurs de gauche.
En 2012, il y a eu beaucoup de déçus du sarkozysme qui ont voté pour François Hollande. Et aujourd'hui, il y a des déçus de Hollande qui s'apprêtent peut-être à voter pour moi. C'est peut-être les mêmes. Ma référence, c'est le général de Gaulle. La France, c'est pas la droite. La France, c'est pas la gauche. La France, c'est tous les Français. C'est là-dessus aussi que je souhaite convaincre.
Les primaires sont-elles en train de donner un coup de jeune ou bien de dénaturer l'élection présidentielle en France? C'est le débat de ce soir. Bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio deux invités. Vanessa Jérôme, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chercheur à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes co-auteur d'un ouvrage qui paraît dans quelques jours. Il s'intitule « Les primaires ouvertes en France », sous-titre « Adoption, codification, mobilisation », un ouvrage qui paraît aux presses universitaires de Rennes. Deuxième invité, Alexis Corbière, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, dont je parlais dans l'introduction. Et vous êtes vous aussi l'auteur d'un ouvrage sur les primaires, il s'intitule « Le piège des primaires » aux éditions Le Cerf. Alors Alexis Corbière, comment, j'ai envie de vous poser la question comme ça, comment est-ce qu'on peut être contre les primaires aujourd'hui? Est-ce que c'est pas un progrès démocratique incontestable?
Ça dépend de l'objectif de celui qui les met en œuvre. Si l'objectif c'est de défendre la Ve République et ce système, c'est une modification, mais moi je souhaite mettre un terme au présidentialisme. Et finalement, les primaires ne règlent pas cette affaire-là. Elles exacerbent encore plus finalement les querelles d'égo. Souvent d'ailleurs, elles sont surplombées par ce que j'ai appelé la sondocratie, c'est-à-dire que la période des primaires est surplombée par des sondages en batterie qui indiquent ou pas qui c'est qui devrait être en tête. Ça pose le problème de l'argent aussi dans les primaires. L'argent, est, selon les candidats, selon les moyens qu'ils ont, ils n'ont pas les mêmes chances. Moi, j'ai regardé les chiffres en 2011 dans la primaire socialiste. Le classement à l'arrivée, Hollande, Aubry, Montebourg, correspond exactement à la somme d'argent que chacun a consacrée. J'ai calculé, c'est 0,48 centimes.
Vous y voyez une corrélation.
C'est-à-dire que on a quand même un problème. Les liens entre l'argent pour payer les candidats en 5e République, c'est un problème. La primaire ne règle pas cette affaire-là. La primaire ne règle pas le problème entre les instituts de sondage et les candidats.
Mais
et
alors, surtout, le fait, par exemple, que François Hollande, qui est donc président sortant, là, soit obligé de se plier à une primaire de la gauche, est-ce que c'est quand même pas un signal fort?
C'est un signal fort de sa grande faiblesse et de la décomposition de son quinquennat.
Mais il aurait pu être considéré comme étant le candidat naturel, finalement, il ne l'est pas.
Ça, en monarchie, ça existe peut-être, mais je veux dire, ça démontre surtout, mais ce qu'il y a d'intéressant à observer dans sa primaire, c'est qu'il est confronté à ses anciens ministres, et je crois que ses anciens ministres qui sont confrontés à lui seront frappés des mêmes difficultés de M. Hollande. Mais surtout, je voudrais terminer sur un argument. Le problème de la primaire, et je voudrais pas être trop long, mais tout de même, c'est que ça, là, en 2016-2017, ça a d'abord pour l'idée, ça fige qu'il y aurait un tripartisme en France. Il y aurait que trois blocs. Le paysage politique, ce serait 30% FN, 30% droite, 30% de la gauche, entre guillemets, avec toutes les difficultés qu'il y a à saisir de ce mot. Et ce paysage serait figé. Et la primaire, en quelque sorte, viserait à ce que chacun ait un candidat unique. Et moi, le problème aussi qu'il faudra, peut-être qu'on aura le temps d'en débattre, c'est qu'il y a, en fait, une espèce de tamis social qui se met en œuvre dans la primaire. Parce que qui vient voter dans la primaire?
Alors, on va y venir. Non, mais c'est vrai que vous avez plusieurs arguments, mais je voudrais déjà donner la parole quand même à Vanessa. Ça, Jérôme, quel regard vous portez en tant que spécialiste, vous avez travaillé depuis longtemps sur cette notion de primaire, sur la multiplication des primaires dans le jeu politique français aujourd'hui? Je l'ai dit, il y a les Verts, c'est votre spécialité, mais il y a aussi aujourd'hui la droite, le centre, et puis il va y avoir la gauche. Pour vous, ça veut dire quoi? C'est une vitalité démocratique?
C'est surtout du mimétisme, en réalité, parce que l'outil primaire, qui n'est pas un outil français, hein, qui est un outil importé du système américain, qui n'a absolument pas grand-chose à voir avec le nôtre, hein, c'est une manière de répondre, en tout cas de tenter de répondre à ce qu'on appelle la démobilisation politique, c'est-à-dire à la fois le peu d'intérêt ou le moindre intérêt pour la politique, l'éloignement de la politique, c'est-à-dire ne plus la comprendre, ne pas s'y intéresser, ne pas se sentir compétent pour en parler. Et puis, bien évidemment, l'abstention, dont on connaît quand même les raisons essentiellement, hein, et notamment, justement, cette distance aux politiques, hein, qui est reproduite.
Abstention, alors, rappelons-le juste pour les auditeurs, premier parti de France, si on la comptait.
Absolument, oui, et notamment parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éloignés de la politique, qui se sentent incompétents en politique, et notamment, évidemment, les catégories les plus populaires. Donc l'outil primaire est censé, ou en tout cas est vanté, comme un outil qui permettrait de faire en sorte que les gens se réintéressent à la politique, aient envie de reparticiper, se réinscrivent dans le champ politique et puis votent. Sauf que...
Vous y voyez un mais.
Et oui, sauf que ça fonctionne pas comme ça, parce qu'en réalité, il y a une règle sociologique qui fait que plus on est éloigné de la politique parce que on a... des caractéristiques sociales qui nous en éloignent, plus on reste éloigné, et que, en l'occurrence, la primaire ne résout rien.
La multiplication des scrutins, en fait, elle rapproche pas les abstentionnistes du vote.
Absolument.
Là-dessus, vous êtes
pas,
d'accord avec Alexis Corbière, finalement.
Avec attention, moi, on est au cœur du problème. C'est-à-dire que ce qui nous est vanté comme rapproché, en gros, on va régler le problème de la participation populaire, tout démontre, et la primaire de 2011 des socialistes a des travaux très intéressants, je pense aux travaux de Rémi Lefebvre ou d'autres, qui montrent très clairement qu'en vérité, les milieux populaires déjà abstentionnistes s'abstiennent encore plus et vont voter en fait les gens qui sont déjà intégrés dans la vie des partis, les CSP+, ceux qui gravitent autour des partis politiques, les clientèles, pardon du mot un peu méchant souvent, encore des élus, ça existe encore, et finalement, vous avez comme ça, ce que j'appelle moi, une espèce de vote censitaire, ceux qui gravitent encore autour des partis vont décider de celui qui doit être le candidat prétendument unique de son camp.
Mais ça,
c'est
ce
terrible.
Serait un argument qui serait valable dans le cadre que de la primaire ouverte, finalement, dans le cadre de la primaire fermée, où on a déjà des militants qui sont par définition militants, donc très concernés, là, il y a une grande mobilisation.
Alors, en tout cas, pour ce qui concerne les Verts, puisque c'est le parti que je connais le mieux, bon, les Verts ont toujours utilisé des primaires pour sélectionner leurs candidats à la présidentielle. Depuis la création du parti en 1984, ils l'ont toujours utilisé. Ils l'ont testé sous toutes ses formes d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un bon objet pour analyser les primaires, à la fois des primaires ouvertes, semi-ouvertes, fermées, avec des modalités différentes. Ce qui est important là de retenir, c'est que en réalité, toute l'ambiguïté de la primaire, c'est que c'est un scrutin qui est à la fois, et a fortiori si elle est ouverte, c'est un scrutin qui est à la fois mi-électoral et mi-partisan, dont l'interprétation des résultats est assez complexe, parce que quand vous avez un corps de militants, d'abord, ça ne veut pas dire que la totalité des militants vote, hein, il y a presque 50% d'abstention chez les Verts dans les élections internes. Alors là, la primaire, la présidentielle, ça mobilise un peu. Là, sur la dernière, pour l'instant, on est à peu près 75% de participation, mais on ne sait pas encore dire la part qui concerne les adhérents qui étaient inscrits d'office et la part de ceux qui se sont inscrits depuis l'extérieur. Donc c'est toujours mi-électoral, mi-partisan, des résultats très compliqués à interpréter, et en tout cas ce qu'on appelle, nous en sciences politiques, le phénomène de sens caché, hein, au sens censitaire, hein, effectivement n'est pas du tout résolu avec le système de la primaire.
Alors Alexis Corbière, pour être bien clair, vous êtes contre la primaire ouverte, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, vous êtes aussi contre la primaire fermée, la primaire des militants, pour vous c'est vraiment aussi un détournement du système électoral ?
Non, mais je ne serais pas si affirmatif, parce que c'est... Moi, j'observe que dans l'élection qui vient, participer notamment, parce que moi, je suis un acteur politique, je ne suis pas un chercheur, participer à la primaire mise en place par le Parti Socialiste revient en fait à graviter autour du Parti Socialiste et à dire à l'ensemble de la population, nous allons nous entendre avec ceux que nous venons de critiquer depuis 5 ans. C'est dévastateur, c'est incompréhensible pour des gens. Les gens veulent de la cohérence. Quand vous avez critiqué sur le fond, tel que l'a fait Jean-Luc Mélenchon et moi-même, ce que fait M. Hollande depuis 2012, pas pour des raisons personnelles,
personnel.
Mais ça reviendrait à dire
pourrait,
en gros...
Ça pourrait trancher une ligne politique aussi.
Mais c'est 44 millions d'électeurs de le trancher. C'est ce que je viens de dire, ce que vient bien d'expliquer Vanessa. C'est-à-dire que quand vous avez aujourd'hui une situation où vous allez avoir un nombre réduit de gens qui vont venir voter, qui sont sociologiquement très typés et qui vont être encore plus réduits là. Je rappelle qu'il y avait 9300 bureaux de vote à la primaire socialiste en 2011. Cette fois-ci, M. Cambadis annonce que c'est entre 6 et 8 000. Donc on va réduire le nombre de bureaux de vote. Ça va être encore plus les bureaux de vote dans les centres-villes. Ça va être encore plus urbain, encore plus politisé. Donc vous allez avoir... Moi, je ne confie pas à ce million-là, sans doute, de gens qui gravitent encore autour du Parti Socialiste, parfois parce qu'il est salarié, parce qu'il est lié à tel ou tel élu, le choix de désigner un candidat unique, qui, de mon point de vue, sera un candidat qui sera porteur d'une ligne politique assez peu compréhensible. Moi, je fais plutôt confiance, je cherche à travers Jean-Luc Mélenchon, dans cette élection, parce qu'en 2012, il était candidat, parce qu'on pourrait décliner, mais à m'adresser à ces 50% d'abstentionnistes. Ne laissons jamais dans l'angle mort de nos débats politiques. Et c'est pour ça qu'il y a un raisonnement feignant et minoritaire dans ceux qui sont pour la primaire. Souvent, quand je discute avec eux... Quand je dis feignant, c'est-à-dire que des gens de bonne foi disent « Oui, mais tu comprends, la gauche ne fait que 30%, rassemblons-nous. » Eh bien, moi, je pense que sur mes idées, c'est-à-dire l'urgence écologique, l'urgence sociale, l'urgence démocratique, on peut être majoritaire. Mais il faut parler d'abord à ceux qui s'abstiennent, ce qui vient d'être dit, ceux qui sont éloignés du débat politique. Et eux, franchement, n'en ont rien à faire que l'on soit rassemblé avec tel ou tel, ils veulent d'abord qu'on leur parle.
Alors, je voudrais qu'on avance un petit peu. Il y a un autre argument qu'on entend beaucoup contre la primaire, c'est celle d'une personnalisation du scrutin. Mais alors, Vanessa Jérôme, est-ce que ce qui s'est passé il y a quelques jours au sein d'Europe Écologie Les Verts, ça montre pas l'inverse? Puisque, je le rappelle, Cécile Duflot, ex-patronne du parti, ex-ministre, a été évincée. Elle a fait un score très très bas, devancée par des quasi-inconnus. Alors, il est vrai, pas inconnu au sein du parti, mais est-ce que ça montre pas justement qu'une primaire peut faire émerger d'autres personnalités? On l'avait vu aussi avec Arnaud Montebourg, par exemple, en 2012.
Non, le résultat de Cécile Duflot, ce que ça montre, c'est que les Verts, c'est pas un parti comme les autres. C'est un parti dans lequel les codes de la présidentielle sont presque inversés. L'effet de la primaire, c'est quoi? C'est d'en rajouter sur l'effet déjà 5e République, qui est la personnalisation, la focalisation sur un individu. Hein. On dit que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme et, d'ailleurs assez rarement d'une femme, hein, je souligne, en tout cas d'un homme et d'une nation. La primaire, elle va dans ce sens-là, parce que ce que la primaire fait, c'est de personnaliser les enjeux.
Oui, mais on a quand même eu, par exemple, des débats avec Yannick Jadot, Michel Rivasi, Cécile Duflot, qui ont été diffusés sur des chaînes qui sont quand même accessibles à tout le monde. Ça, c'était quand même inédit. On a eu un débat entre écologistes, non?
Non, c'était pas inédit. En 2011, il y a eu aussi des débats. Il y a toujours des débats, sauf que maintenant, ils sont médiatisés. Et là, en l'occurrence, la primaire, l'effet de la primaire, c'est quoi? C'est un plus de médiatisation. Un plus d'effet sur les sondages. Quels sont les meilleurs candidats d'après les sondages? Un surplus sur l'aspect un peu stratégiste, parce qu'en réalité, ce qu'il faut retenir de la primaire, c'est qu'il n'y en a pas une. Il y a des primaires, il y a des usages de la primaire, ils sont pluriels, ils sont stratégiques,
ils sont conjoncturels. Et il y a des gens qui envisagent d'aller voter à plusieurs primaires,
oui,
aussi.
Bien
donc
sûr.
On n'est même plus à une présidentielle à 4 tours, elle pourrait être à 8 tours pour
mais
certains.
Mais ça, c'est problématique,
qui voudraient.
Parce Alexis que ça Corbière. Participe, me semble-t-il, à une forme de déstructuration de la pensée. Qui vise à ce que des gens de gauche vont quelque part signer un papier qui dit « je partage les valeurs de la droite » pour essayer de faire l'électeur stratège et en quelque sorte, sous la pression bien souvent d'une certaine campagne d'opinion, expliquer que M. Juppé serait moins pire que Sarkozy. Alors écoutez-moi bien, moi je ne défends pas M. Sarkozy, mais sur le plan social, M. Juppé est sans doute plus brutal encore que M. Sarkozy. Il est pour la retraite à 65 ans, il est pour s'en prendre encore plus aux chômeurs, je pourrais décliner les thèmes. Mais parce que, vous voyez ce que je veux dire, au bout d'un moment, on perturbe complètement. Les gens sont sur des réflexes plus que des réflexes. Quand on est de gauche et qu'on veut un candidat de gauche au second tour, ou un humaniste, un candidat écologiste, on vote pour un candidat humaniste, écologiste et social. On vote pas pour un homme de droite, sinon ça n'a plus
aucun
sens.
Oui, mais alors
sens.
Là, l'argument du camp d'Alain Juppé, c'est de dire, mais finalement, dans ces gens qui vont basculer, ils auraient pu
Anne,
être à droite il y a plusieurs élections.
Ce que je veux
est
dire,
vrai
c'est
qu'un certain nombre de Français changent d'avis.
Pour quelle raison on arrive à ce type d'attitude, ce sont les sondages. Moi, je rappelle quand même que par deux fois, la Commission nationale des sondages, vous savez, c'est une instance qui est assez calme, pépère, hein. Elle avait fait deux rappels à l'ordre en 2011 en disant que les instituts de sondage, quand ils travaillent sur les primaires, n'ont pas de panel représentatif. Donc vous avez aujourd'hui, et d'ailleurs Madame Duflot vient d'en subir quelque part, il n'y a rien qui est écrit. On ne peut pas vraiment juger. Et aujourd'hui, vous avez par exemple des résultats qui sont donnés de la primaire socialiste. On verra ce que ça donnera. Mais vous avez des gens qui sanctionnent Monsieur Hollande, mais qui après se disent de droite et d'extrême droite. Moi, par exemple, ça profite à Monsieur Montebourg. Mais moi, je ne crois pas que quand vous avez, je crois, 17% de gens qui se disent FN, mais ils ne vont pas aller voter de la primaire socialiste. Idem pour la droite. Donc vous avez comme ça des miroirs totalement déformés. Je termine sur une dernière chose. Vous évoquiez tout à l'heure tout de même, la primaire écologiste, en plus, les écologistes ne l'appelaient même pas comme ça, c'est 12 000 votants à l'arrivée. C'est très, très, très peu. On a là aussi un problème. Moi, je me permets de le dire comme porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. C'est qu'il y a beaucoup d'espace médiatique qui est occupé par les primaires, beaucoup de temps à la télé, pour finalement des choses qui intéressent assez peu de gens.
Et ouais, donc, c'est le phénomène de loupe médiatique dont on parlait.
Moi, si ça continue comme ça, moi, je vais être candidat contre Jean-Luc Mélenchon et on va faire des petits débats tous les deux et on va avoir des soirées entières de discussion. C'est pas non plus, attention, parce que les gens ont démontré, il y avait 30 000 votants la dernière fois à la primaire d'Europe Écologie Verte, cette fois-ci 12 000. C'est une façon quand même de démontrer qu'attention, il y a peu, de moins en moins de gens qui s'intéressent à ça pour des raisons politiques.
Vanessa, Jérôme, est-ce que vous êtes d'accord sur cette tendance que disent avoir certains électeurs de gauche, certains sympathisants de gauche, faisons peut-être la nuance pour aller voter Alain Juppé, est-ce que pour vous aussi, c'est là l'illustration d'une perversion du système des primaires. C'est pas dans l'esprit.
Perversion, je sais pas. En tout cas, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est devenu une espèce de pré-tour, presque de premier tour de présidentiel, qui jouerait dans le fond maintenant sur quatre tours. Un premier tour de primaire, un deuxième tour de primaire, un premier tour d'élection présidentielle, un deuxième tour d'élection présidentielle. Et puis alors, il y aurait peut-être à nouveau des tours de plus si on compte la législative qui vient ensuite, puisque dans le calendrier, maintenant, elle vient après la présidentielle. Je crois que, à tout le moins, l'outil primaire est qui, pourquoi pas, pourrait être entendu comme une manière de remobiliser ceux qui s'intéressent peu à la politique, ne serait-ce parce que effectivement il y a un effet dans les médias, on en parle, parce que les gens ont l'impression de vraiment choisir leur candidat.
Ce qui peut agacer peut-être aussi certains citoyens qui en ont marre aussi d'entendre trop de débats
politiques.
Oui, alors après,
la politique, c'est toujours compliqué. Trop ou pas assez. Bon, c'est toujours un peu compliqué. Mais en tout cas, la vérité, c'est que l'effet principal, c'est que c'est pas du tout ni les plus éloignés de la politique qui finalement sont intéressés, ni nécessairement les militants, parce que les appareils des partis politiques gardent totalement la main sur les parrainages, sur le mode de scrutin, sur le timing. Donc il y a une espèce de ruse, même en interne, quand les primaires y compris sont fermées, c'est de laisser croire que ce sont les militants qui vont choisir leur candidat à la présidentielle. C'est pas tout à fait vrai. En tout cas, les règles du jeu sont encore très partisanes. C'est la main au parti. Il y a une forme de
c'est
paradoxe.
Très vrai, ça, pardon.
Alors, attendez, parce que...
Non, mais je peux souligner, illustrer
vite, parce que je voudrais quand même vous demander, et donc on les choisit comment les candidats? Allez-y.
Non, mais je voudrais illustrer ce qui vient d'être dit d'abord, c'est que chez les Europe Écologie des Verts, quatre candidats, quatre parlementaires. Dans la primaire de la droite, on n'a que des parlementaires et l'essentiel des anciens ministres. Vous choisissez entre un ancien président et un ancien premier ministre. Pas beaucoup de renouvellement. Et on s'annonce quand même au Parti Socialiste à ce que l'ensemble des candidats sont plutôt soit M. Hollande, soit ceux qui ont gouverné avec M. Hollande. Donc on est là sur une fausse proposition.
Alors, comment est-ce qu'on choisit les candidats? Parce que finalement, Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que pour vous, il est devenu le candidat naturel de votre camp?
J'admets qu'il peut y avoir un questionnement. Jean-Luc Mélenchon, il retourne l'arme du présidentialisme contre le présidentialisme. Bien souvent, on dit, mais vous personnellement, quand il y a une compétition de football qui commence, on ne vient pas avec un ballon ovale. Il y a une élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon est à ce stade parce qu'il a incarné une résistance. Et j'admets qu'il y a une personnalisation depuis 2012 sur des idées. Il est, selon moi...
Et qui dit il a incarné, vous?
Moi et l'équipe autour de Jean-Luc, les différentes
formations... Donc, ce n'est pas plus démocratique que s'il avait été sorti d'une primaire.
Non, mais il ne fait pas croire, lui, qu'il va rassembler et qu'on va se mettre d'accord avec le Parti Socialiste. Moi, ce que je déteste aujourd'hui, c'est le système qui vise à dire vous n'avez pas le droit, Monsieur Mélenchon et vos amis, de vous présenter. Venez vous mettre d'accord avec le Parti Socialiste, alors que depuis 2012, nous ne cessons de multiplier les points de désaccord. Donc, au bout d'un moment, cette hypocrisie, elle est dévastatrice. Je termine sur... Il y a un acteur dont on n'a pas parlé, mais qui explique les primaires, c'est le Front National, qui sert en vérité de prétexte à imposer et à faire taire dans les différentes primaires.
D'ailleurs, vous me faites remarquer que je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de primaire au Front National, mais c'est vrai aussi.
Oui, mais il faut faire attention, parce que bientôt, vous nous expliquez qu'il va falloir aller au Front National, voter M. Philippot contre Mario Maréchal Le Pen. Vous voyez, les électeurs, on s'y perd. Et pour combattre le Front National, il faut remobiliser les milieux populaire, et là c'est sur un
et
discours.
Pas avec la primaire, on a bien compris. Vanessa, Jérôme, est-ce qu'on peut aujourd'hui revenir sur ces primaires alors qu'on sent bien quand même qu'elles s'installent? Ça va être compliqué à faire passer ça.
Ça, oui, ce serait compliqué, ça va être coûteux parce que malheureusement, c'est diffuser l'idée que primaire égale plus de démocratie interne et plus de démocratie sur le choix de la candidate à la présidentielle. L'effet principal quand même de la primaire, et c'est peut-être là qu'on peut trouver à redire, c'est que d'abord, et c'est ce qui vient d'être dit, pour la première fois effectivement chez ELV, il y avait quatre professionnels de la politique. politique. Ce qui éloigne le plus ou ce qui lasse potentiellement chez les électeurs et encore une fois les plus éloignés de la politique, c'est trois choses. La professionnalisation, ce sont toujours des professionnels de la politique. C'est ensuite la personnalisation de la visibilité médiatique, les sondages, et puis l'individualisation des ressources politiques qui fait que ce sont toujours les mêmes, et on les voit aussi bien à droite, ce sont toujours les mêmes depuis longtemps qui candidatent. Et en l'occurrence, les primaires, c'est pas nécessairement plus de démocratie.
Et ben on terminera là-dessus. Merci beaucoup Vanessa Jérôme, chercheuse à l'EHESS, Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Merci à Hélène Avril et à Sigrid Azéroal.